Et nos invités ce soir, invités politiques du 22h, les porte-paroles de Lutte ouvrière et candidate aux législatives en Seine-Saint-Denis, Nathalie Arthaud, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous. Avec nous également l'éditorialiste au Figaro, Yvan Rioufol, bonsoir.
Bonsoir.
Et notre chroniqueur, Jean-Louis Gombeau.
Bonsoir Sonia.
Bonsoir Jean-Louis. Nathalie Arthaud, vous venez de voir dans notre sujet le chiffrage de Gilles Carrez. Pour lui, un mois de décision socialiste, c'est 20 milliards de dépenses supplémentaires d'ici 5 ans. Quelle est votre réaction ?
Écoutez, c'est quand même les mêmes. Hein. C'est l'UMP qui avait décidé de mettre en place la TVA sociale, hein, c'est-à-dire d'augmenter la TVA pour tout le monde. Et on sait très bien que la TVA, c'est l'impôt le plus injuste, où finalement les plus pauvres payent en proportion le plus. Et c'était 13 milliards d'impôts de plus. Mais 13 milliards, cette fois-ci, payés effectivement par les plus modestes. Donc je ne vois pas en quoi ils sont à même de faire la leçon. En l'occurrence.
En quelques jours, il y a eu l'avertissement de Bruxelles, la Cour des comptes et puis celui de l'Inspection générale des finances. Il tire la sonnette d'alarme sur les déficits français. Est-ce qu'il faut jeter pour vous tous ces rapports à la poubelle ?
Ah, moi, je ne suis absolument pas opposée à ce que la dette soit payée. À ce que les déficits, soient résorbés et à ce qu'il y ait l'équilibre des comptes publics. Mais moi, je suis pour que ce soit ceux qui ont creusé ces déficits et qui ont fait la dette qui le payent. Voilà. Et c'est ça, c'est la grande différence. Et tout de même, il n'y a pas un euro de cette dette supplémentaire qui est allée dans les poches des plus pauvres, des retraités, des malades ou des salariés. Cet argent, cette dette supplémentaire, elle a été faite au profit des banquiers, au profit des groupes industriels. C'est des milliards de subventions en tout genre qui ont été déployées pour les aider, toujours les mêmes. Donc c'est à eux de payer. Alors que les banquiers, que les industriels, que les plus riches s'entendent, se mettent d'accord, qu'ils payent. Mais moi je dis aux travailleurs et à la population, il n'y a pas de raison d'accepter des sacrifices supplémentaires pour faire les frais, pour payer hein, cette crise dont nous ne sommes pas, nous, responsables, les travailleurs.
Yvan Rioufol, le gouvernement se veut rassurant et promet de revenir à 3% du déficit en 2013 sans austérité. Est-ce que cela veut dire, comme le préconise Martine Aubry, et comme ne l'a pas caché d'ailleurs François Hollande, qu'il y aura des hausses d'impôts très importantes ?
Très vraisemblablement. Est-ce que le reproche d'ailleurs qu'on pourrait faire au gouvernement, c'est qu'il sait déjà l'envergure de ces hausses d'impôts et qu'il ne les annonce pas avant les législatives. Il le fera après, prétextant d'un audit de la Cour des comptes qui sera rendu à la fin juin. Mais on connaît d'ailleurs, tout le monde connaît les éléments, vous les connaissez, nous les connaissons tous, ils sont dans le domaine public. La France est endettée à un point tel qu'elle ne peut plus multiplier les impôts précisément, sauf à voir les plus riches partir, ce qui commence à faire, et il ne peut plus non plus vivre à crédit. Donc il va bien falloir à un moment donné que l'impératif réaliste s'appuie sur les données des réalités elles-mêmes qui sont incontournables, puisque l'on en croit la Commission de Bruxelles, la Cour des comptes, Bercy, les exemples des pays voisins qui eux aussi connaissent les endettements et qui ont procédé à des purges, à des politiques de rigueur naturellement très détestables pour tout le monde et notamment pour les peuples qui les subissent. Mais je ne vois pas, sauf à faire abracadabra et à sortir un lapin de son chapeau, mais dans ce cas-là nous aurions élu un magicien, je ne vois pas quelle autre solution pouvoir envisager.
Il faudra faire des efforts, on est pratiquement tous d'accord autour de cette table. Mais Jean-Louis, est-ce qu'on peut réduire notre déficit public sans un plus grand effort sur les dépenses publiques ?
Alors, il y a deux thèses. Effort sur les dépenses publiques, c'est le rapport qu'a publié hier l'Inspection générale des finances. Mais je suis très surpris de cette polémique sur les impôts. François Hollande avait dit qu'il augmenterait de 15 milliards les impôts. Il va les augmenter de 15 milliards. Avant de partir en vacances, on aura une addition de 15 milliards de hausse d'impôts qui était déjà, c'est-à-dire qu'on voit la droite se mobiliser, mais elle s'est déjà mobilisée, c'était dans le programme de François. Il n'y aura pas de surprise particulière, ça sera peut-être 17, ça sera peut-être 14 milliards, mais
peut-être plus,
mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait clairement dit qu'il augmenterait les impôts, et ça ne l'a pas empêché de gagner. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il va augmenter les impôts, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il avance une mesure sociale, par exemple, il y avait des dépenses sociales qui n'étaient pas prévues dans son... Lorsqu'il a dit « je donnerai un coup de pouce au SMIC », le problème, c'est l'ampleur du coup de pouce. Et à chaque fois que vous augmentez d'1% le SMIC, un coup de pouce, qui est quand même pas beaucoup, vous avez 1 milliard dans la vue, dans le budget. Comme l'on sait, par exemple, que la CGT de la CFDT demande 5% d'augmentation, vous avez 5 milliards dans la vue, compte tenu des déductions sociales que finance l'État, et aussi du fait qu'une 900 000 membres de la fonction publique sont payés sur la base du SMIC. Donc la moindre petit progrès social pèse des tonnes. Et c'est ça le programme.
On va justement demander à Nathalie Arthaud quel coup de pouce au SMIC faudrait-il, quelle ampleur en tous les cas.
Oui, c'est pour ça que je tiens à revenir quand même sur la discussion. Moi, je suis absolument effectivement pour qu'il y en ait qui payent. mais qu'on s'entende bien.
On a
voilà,
compris.
Hein, ceux qui doivent faire ces efforts, c'est les plus riches.
Hein, votre fourchette, Nathalie Arthaud.
C'est bien ça. Moi, je ne suis pas pour les sacrifices partagés. Hein, qu'on soit bien d'accord, parce que les sacrifices, c'est les travailleurs qui les font depuis que la crise a démarré. Ils ont perdu ce qui avait le plus cher pour eux, beaucoup, hein, leur emploi. Donc, il est hors de question de rentrer dans cette discussion-là.
Votre fourchette du coup de pouce au SMIC, l'ampleur.
Moi, je crois qu'avec moins de 1 700 euros net par mois, enfin, je sais qu'avec moins de 1 700 euros net par mois, c'est difficile de boucler les fins de mois. Voilà, c'est difficile d'accéder à un logement digne, c'est difficile de se nourrir correctement, de payer des études à ses enfants, d'avoir une mutuelle, parce que tout ça a augmenté. Les mutuelles ont beaucoup augmenté, à tel point qu'aujourd'hui, des millions de familles se posent le problème d'avoir une mutuelle, de contracter une mutuelle. C'est pareil sur le prix de l'électricité, sur le prix des loyers et des charges. Donc oui, moi je dis le SMIC à 1 700 euros net par mois, parce que c'est ce qu'il faut pour vivre.
Donc,
et il faut que l'économie réponde à ce besoin que les travailleurs
puissent vivre. Il y aura forcément des déçus dans l'arbitrage du gouvernement.
Naturellement, et si rien n'est fait pour essayer de lutter contre ce déficit de compétitivité des entreprises, naturellement, il ne faut pas engager une politique. Je comprends très bien naturellement l'intérêt qu'il y aurait à augmenter le SMIC à 1 700 euros, mais on voit bien également quel serait le handicap pour la compétitivité des entreprises. Et si vous ne voulez pas que l'on connaisse une situation à la grecque, où là vraiment il y a un désastre pour ceux qui doivent supporter ces crises-là, il faut précisément faire en sorte dès aujourd'hui, celui-ci, je l'espère, puisse s'atteler à un désendettement des dépenses publiques. Or, il n'y a pas une ligne pour l'instant, je n'ai pas entendu une seule mesure de la part du gouvernement de François Hollande. Nicolas Sarkozy était un peu plus téméraire, mais pas plus. Pas une seule mesure, en tout cas, pour désendetter l'État et pour faire en sorte qu'il dépense moins, naturellement, dans ses frais fixes, mais également, peut-être aussi, dans les salaires des fonctionnaires, qui devraient être vraisemblablement gelés. C'est en tout cas les propositions qui sont faites aujourd'hui par pratiquement tous les organismes qui s'occupent de ceci, sauf à nier, encore une fois, les réalités.
On parle de décisions compliquées, mais je vais rappeler aussi quelques décisions et annonces depuis l'entrée en fonction de François Hollande. Il y a eu la baisse des salaires du gouvernement, le futur donc coup de pouce au SMIC, on vient d'en parler, la revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire, le décret encadrant les loyers. Jean-Louis Gombeau, quand on compare par rapport à d'autres pays, la France, c'est une île. Est-ce qu'on va dans le même sens que les autres?
Pas tout à fait, parce que regardez, l'Allemagne a décrété quand même des hausses de salaire de l'ordre de 4% pour les fonctionnaires, hausse de salaire également dans la métallurgie.
Mais modèle allemand.
Non, je dirais pas qu'elle est dans une situation financière qui est quand même un peu plus présentable, même si elle n'est pas parfaite, que la nôtre. On risque de faire beaucoup de déçus, vous avez dit tout à l'heure. Il faut faire attention, je crois que les Français n'attendent pas de miracle de la part de François Hollande, d'ailleurs lui-même. Le problème, c'est qu'à chaque fois que la moindre petite chose pèse des tonnes, c'est ça le problème. 1%, c'est vrai, Madame Artois a raison, 1 700 euros, c'est difficile de vivre, etc. Mais 1%, c'est déjà quelque chose d'absolument considérable, même si pour les gens qui le reçoivent, ça ne sera pas grand-chose. Ça dit, pour la masse de l'opinion publique, il ne me semble pas qu'il y ait une attente d'un progrès social fabuleux compte tenu de la situation financière du pays.
Non, c'est d'ailleurs pour ça que ce gouvernement qui se dit vertueux ne dit pas la vérité. C'est un petit peu la critique fondamentale que l'on pourrait faire, ce gouvernement, dans le fond, s'inscrit dans une sorte de mensonge organisé en ne voulant pas dire quels seront les effets qu'auront à supporter les Français, quoi que dise le gouvernement.
François Hollande a été relativement transparent dans sa campagne, n'a jamais caché... Il a été relativement transparent dans sa campagne, François Hollande, non?
Vous dites mensonge organisé, non? Je n'ai pas trouvé, précisément. Il n'a pas été transparent sur toutes les économies qui doivent être engagées. Il n'a pas dit un mot de cela. Or, c'est bien cela, le point essentiel qui va être supporté par les Français à l'issue des législatives.
Nathalie Arthaud, avant de parler de ces mesures difficiles à venir, sur ce dont je viens de parler, tout ce qui est allocation de rentrée scolaire, les décrets encadrant les loyers, est-ce que ce sont de bons signes pour vous? C'est positif?
C'est quand même des mesures qui sont très très modestes et qui ne sont pas à la hauteur de la situation et effectivement de la situation catastrophique que vivent les classes populaires aujourd'hui. Vous parlez de miracles, mais évidemment, personne n'attend de miracles, mais quand même, quand on voit tous ces plans de suppression d'emplois, toutes ces menaces qui pèsent sur des millions de travailleurs aujourd'hui...
Est-ce que vous reconnaissez une mobilisation générale du gouvernement?
Et justement, par rapport à ça, non. Non, il n'y a rien. Écoutez, vous savez, la liste des fermetures d'entreprises
programmées. Les syndicalistes, il y a des réunions tous les jours.
Oui,
il y a des missions d'expertise.
Des missions d'expertise. Mais écoutez, franchement, il y a besoin d'une mission d'expertise pour comprendre que ArcelorMittal pourrait très bien répartir son activité en faisant redémarrer le haut fourneau de Florange. Il n'y a pas besoin d'une expertise pour ça. ArcelorMittal, ce groupe, ce roi mondial de l'acier, il a fait quasiment 2 milliards de profits l'année dernière. On pourrait quand même lui imposer de prendre une petite partie de ces profits-là pour maintenir l'activité sur ce site. Et on pourrait faire de même pour Peugeot Citroën à Aulnay-sous-Bois, pour Fralib, pour toutes ces menaces qui pèsent sur les entreprises. Voilà des mesures urgentes, vitales, qu'il faudrait imposer. Et un gouvernement qui se situe du côté des travailleurs devrait prendre en main ces mesures-là urgentes. Voilà.
Jean-Luc Gombeau, sur tous ces dossiers, on a l'impression que le gouvernement les prend en main. En tous les cas, c'est ce qu'on voit par différentes réunions. C'est le cas ou c'est pour l'instant
l'affichage ? Je pense qu'il essaie plutôt de gagner du temps. Parce que, regardez, on a parlé de cette conférence du 9 et 10 juillet. Monsieur Sapin a bien précisé qu'il n'y aurait aucune décision à l'issue de cette conférence du 9 et 10 juillet. C'est une conférence de méthode. La France est très cartésienne. Discours de la méthode, maintenant conférence de méthode. On va faire une conférence et on va dresser, on a pris 7 thèmes, on va mettre en place des équipes. Ces équipes ensuite donneront leur conclusion. De tout cela, il ne va pas sortir grand-chose. On est simplement en train de temporiser. La commission mixte qui a été mise en place sur ArcelorMittal, c'est un petit peu pareil. On va rendre un rapport à la fin du mois de juin, mais on ne sait pas très bien exactement où on va. Donc, en réalité, on a l'impression qu'on essaye de gagner du temps, alors que, d'un autre côté, on est bousculé par la crise. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la récession, elle est pratiquement là. La crise financière, elle s'aiguise. Les problèmes se compliquent. Comment gagner du temps alors que ça s'accélère de l'autre côté ?
Nathalie Arthaud, vous aviez prédit une grève générale, je crois que c'était pour septembre 2012, une sorte, vous aviez dit, de troisième tour social sur ce plateau et d'autres. Est-ce que vous admettez que vous vous trompez ?
Non, je n'ai rien prédit du tout, mais je pense effectivement que... Écoutez, moi,
vous avez dit qu'il y aurait une grève générale en septembre 2012.
Je n'ai pas
2012.
De boule de cristal, je ne suis pas Madame Soleil. Non, je vous assure, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Évidemment, le gouvernement temporise. Voilà, le gouvernement, sa conférence sociale...
Non, mais sur ma question, vous aviez parlé de cette grève générale en septembre.
Pourquoi ?
Vous vous trompez sur cela ?
Ça veut dire une chose, c'est qu'il ne veut pas prendre d'engagement parce qu'il veut, encore une fois, et il va laisser les mains libres à ce grand patronat.
Pourquoi ce procès
d'intention ? Il va laisser les mains libres au groupe bancaire parce qu'il ne dit pas aujourd'hui, ce gouvernement, il ne dit pas « nous les ferons payer ».
On a l'impression, quelle que soit la couleur du gouvernement, que votre discours est le même. Pourtant, le gouvernement a changé, c'est le même discours contre les patrons, les riches. Rien n'a changé pour vous avec l'arrivée
à la gauche, justement, le gouvernement ne change absolument pas de discours. On est dans une crise. Il faut effectivement trouver de l'argent. Il y a des sacrifices à faire. Le problème est de savoir qui fait les sacrifices. Quel camp fait les sacrifices ? Les travailleurs ou les actionnaires, les plus riches, les industriels ? Et voilà ce que le gouvernement ne dit pas. Et s'il ne le dit pas, c'est parce que justement, il va continuer dans la ligne, en réalité, du gouvernement précédent. C'est-à-dire qu'il va laisser, effectivement, les grands groupes capitalistes commander, imposer leurs dictates, et il va enrober
clairement,
tout ça dans une politique, effectivement, où il va inviter les syndicats autour d'une table.
Vous êtes dans l'opposition,
il va essayer de faire passer la
pilule.
Vous
êtes dans l'opposition ?
Oui, bien sûr, dans l'opposition, parce que ce gouvernement...
Comme vous l'avez été sous Nicolas Sarkozy.
Parce que ce gouvernement va mener une politique d'austérité. Qu'encore une fois, ceux qui gouvernent derrière ces politiques, eh bien, ce sont les grands capitalistes.
Autre sujet de société, je voulais vous faire réagir sur cela. C'est votre réaction sur une déclaration de Cécile Duflot qui fait beaucoup réagir ce soir sur la dépénalisation du cannabis. On va l'écouter, puis je vous demanderai votre réaction juste après.
Vous êtes toujours favorable à une dépénalisation de la consommation de cannabis ?
C'est la position d'Europe Écologie Les Verts, ça fait très longtemps. Notre objectif, il est double, il est de faire baisser le trafic, de supprimer le trafic et la violence notamment, et d'avoir une politique de santé publique.
Donc oui à la dépénalisation.
C'est plus simple que ça, c'est de dire qu'il faut considérer que le cannabis, c'est comme l'alcool et le tabac, même régime.
Nathalie Arthaud, la question est claire. Oui à la dépénalisation pour vous ?
Moi, d'abord, je tiens à dire que je suis contre la consommation des drogues douces, dures, y compris de l'alcool. Je pense que ça fait des ravages sur la santé. C'est aussi une question de principe et de philosophie. Moi, je pense que ceux qui cherchent des paradis artificiels pour essayer de se libérer de la misère de cette société, de tout ce qui est moche dans cette société, se trompent et qu'il faut au contraire prendre le problème à bras le corps. Donc voilà, moi, je suis plutôt une militante anti-pénalisation. Oui. Maintenant, je pense que la pénalisation ne marche pas. Je pense qu'on l'a essayé, ça fait des années, on fait pas reculer la consommation. Donc je suis plutôt favorable à une dépénalisation, tout en sachant que moi je milite effectivement pour que, au contraire, les jeunes regardent l'avenir
donc
en face.
Oui, mais avec précaution quand même.
Mais moi, je suis une militante contre les drogues, mais je ne vois pas l'efficacité d'une politique de pénalisation.
Yvan Rioufol, on connaissait la position de Cécile Duflot sur ce sujet. Qu'est-ce qui a changé pour soulever autant de réactions ce soir? C'est le fait que ce soit la ministre qui parle ce soir?
Quelle est cette position en tant qu'écologiste, en tant que présidente du mouvement écologiste? C'est tout à fait normal. D'ailleurs, le débat est légitime, bien entendu. Il est difficile de le trancher, mais en tout cas, il a été tranché par le gouvernement, il a été tranché par le président de la République lui-même, qui s'est prononcé comme étant contre cette dépénalisation, et ça a été avalisé par le gouvernement. Donc il y a là une faute politique, en tout cas une maladresse, une faute politique vraisemblablement, de la part de Mme Duflot, de remettre ce sujet sur la table en oubliant qu'elle a été simplement, entre-temps, nommée ministre et qu'elle doit assumer cette fonction-là. Et en tout cas, cette solidarité de la politique gouvernementale.
Alors, autre sujet dans l'actualité, bien sûr, c'est la campagne des législatives. Je l'ai dit, Nathalie Arthaud, vous êtes candidate en Seine-Saint-Denis. D'abord, Yvan Rioufol, pourquoi n'y a-t-il pas aussi peu d'intérêt pour cette campagne? Pourquoi qu'il n'y a pas d'effervescence? Pourquoi il y a une telle déconcentration?
Je crois d'abord parce que la droite a été décapitée, puisque son leader était naturellement Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy ayant été battu, on voit bien aujourd'hui que la guerre des chefs a fait en sorte que plus aucun chef n'ose prendre la parole. S'il y en avait un qui prenait la parole, Copé en l'occurrence, il s'est fait immédiatement rabrouer par ses concurrents immédiats. Donc on voit bien qu'il y a une sorte d'abandon presque des chefs à droite. Et en plus, sur un discours qui n'est plus cohérent, car on ne sait plus très exactement de quelle droite l'on parle, si c'est la droite sociale ou la droite-droite, ou quelle est il manque de corpus dans ce mouvement politique. Donc c'est une des raisons de la démobilisation, en tout cas, du camp de droite. Quant au camp de gauche, il a été élu, on le sait, enfin en tout cas, c'est mon analyse, il a été élu par défaut, par anti-sarkozisme plus que par conviction et par adhésion au programme socialiste. Et donc il n'y a pas là non plus, vis-à-vis de François Hollande, un mouvement de sympathie tel qu'on pourrait envisager une vague rouge. Je ne pense pas que les sondages le confirment. Et donc on s'achemine vraisemblablement vers une forte abstention. On parle de 40% d'après les sondages. Mmh. Et d'un désintérêt, dans le fond, assez dramatique, me semble-t-il, des Français pour cette élection importante, malgré tout.
Nathalie Arthaud, c'est ce que vous ressentez sur le terrain? Vous êtes en campagne, vous êtes évidemment, vous vous déplacez. C'est ce que vous disent les gens? Il y a une démobilisation?
Ben moi, les gens qui viennent discuter avec moi, c'est plutôt pour me saluer, pour me féliciter, pour dire tout le bien qu'ils pensent de ce que j'ai pu défendre. C'est plutôt ça. Maintenant, je pense que sur le fond, beaucoup considèrent que les jeux sont faits. Hein, et moi, je tiens justement à dire aux travailleurs que c'est l'occasion quand même, justement, d'exprimer, de dire que les travailleurs ne se laisseront pas faire. Que même si Hollande est arrivé au pouvoir, eh bien, ils seront vigilants et qu'ils tiennent, eux, à mettre leurs exigences sur la table et qu'ils se battront pour cela, hein, qu'ils les feront à entendre. Et surtout, ils peuvent exprimer, en votant pour les candidats de lutte ouvrière, justement, une méfiance vis-à-vis de ce gouvernement. Oui. Voilà, exprimer une méfiance et dire
malgré
que...
Malgré tout ce que vous me dites, cette opposition, cette méfiance au gouvernement, vous souhaitez quand même que la gauche arrive en tête pour ces élections législatives. La gauche, le PS, pour une majorité.
Moi, je ne souhaite absolument pas que ce soit la droite qui gagne, évidemment. Non, en même temps, moi, je pense qu'une Assemblée nationale à la botte de Hollande ne changera pas le sort des travailleurs. Donc, autant utiliser ce premier tour où il y a le choix pour dire vraiment ce qu'on pense, pour mettre sur la table un programme, moi, encore une fois, un programme de lutte avec des objectifs vitaux, l'interdiction des licenciements, l'augmentation des salaires, des pensions de retraite. Et un contrôle aussi, un contrôle des travailleurs sur les comptes et sur les décisions des entreprises. On voit qu'avec l'entreprise Doux, d'ailleurs, il y aurait bien des choses à contrôler et à voir comment ça se passe. Donc voilà, les travailleurs doivent mettre sur la table leurs exigences. Moi, je pense qu'il faut que les travailleurs soient conscients, qu'il faut créer une opposition justement à ce gouvernement et ne pas laisser le monopole de cette opposition à la droite et à l'extrême droite.
Nathalie
Arthaud. Qu'on va beaucoup entendre et montrer qu'il y a une opposition à gauche sur le terrain des intérêts des travailleurs.
Si le PS n'obtient pas cette majorité absolue, ses alliés risque d'être fort indocile, voire turbulent, voire plus.
Oui, ce sera naturellement le risque à prendre. Il y a aussi cette autre hypothèse qui serait que la droite, malgré tout, arrive à gagner ses législatives et que l'on s'achemine vers une sorte de cohabitation.
Pour l'instant, ce que personnellement,
je ne souhaite pas non plus, car je préférerais, en tout cas, que la gauche assume elle-même l'ensemble de sa politique durant 5 ans pour voir où cela va nous mener. Je suis assez pessimiste malgré tout. Mais en tout cas, je pense que la droite, aujourd'hui, a plus intérêt à se mettre dans l'opposition totale et à regarder faire celle qui prétend savoir faire et puis à attendre les dégâts.
Nathalie Arthaud, pour finir, vous êtes candidate, vous souhaitez donc gagner. Est-ce que vous croyez donc désormais au changement par les urnes ?
Écoutez, moi j'espère surtout qu'il y aura beaucoup de votes.
Vous êtes candidate, bon, vous voulez...
J'ai pas l'illusion d'être élue. Vous savez pertinemment qu'il y a une barre à 12,5 des inscrits, que ça sera extrêmement difficile. En revanche, j'espère que tous ceux qui se sont censurés à l'élection présidentielle pour voter utile, pour voter Hollande, pour être sûr de se débarrasser de Sarkozy, eh bien auront à cœur... là, cette fois-ci, de voter pour leurs idées, d'exprimer leur adhésion justement à un programme de lutte, à cette idée que oui, il faut renouer avec des luttes puissantes, et auront envie de dire leur méfiance.
Pour terminer, parce que donc, vous marquez votre position, vous avez souvent dit sous Nicolas Sarkozy que la France, d'un point de vue social, était bousculée, fracturée, abîmée, délaissée. Est-ce que sous François Hollande, est-ce que les plaies sont en train d'être pansées, selon vous, de ce point de vue-là?
Écoutez, moi j'ai... considéré que Nicolas Sarkozy était le responsable de tout ce qui se passait, etc. Et j'ai toujours dit que derrière le pouvoir politique, il y avait quand même ceux qui tiraient les ficelles et ceux pour qui profite le système.
Laissez-le deviner, les patrons.
Écoutez, c'est quand même eux qui commandent. Vous savez, c'est le pouvoir de l'argent. Et ce pouvoir de l'argent-là, il est intact aujourd'hui. Et c'est bel et bien
Nathalie
lui qui va continuer de s'imposer.
Qui conserve donc le même discours sous deux présidents différentes. C'est dans la continuité. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Merci Yvan Rioufol et merci à vous Jean-Luc Gombeau pour votre analyse. La suite et cette dernière page de 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Cécile Sixou.